Lacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Je vous retrouve avec un immense plaisir en direct et jusqu'à 16h pour écouter et partager vos expériences de vie. À mes côtés, ma camarade Ombline, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Ici, c'est votre heure, on parle de vous, de la société qui nous entoure, car votre vécu nous intéresse. Leur quotidien est de sauver, protéger les autres ou de partir en mer. Ils sont pompiers, policiers ou marins-pêcheurs et leur quotidien est dit à risque. Risque d'accident, d'agression, leur métier les met en danger à chaque instant. Quel est leur quotidien, mais aussi celui de leur entourage ? Car vivre auprès d'un agent pénitentiaire ou d'un convoyeur de fonds, cela peut être source d'inquiétude ou d'angoisse. Qu'est-ce qu'être le conjoint ou la conjointe d'un policier d'élite, de quelqu'un qui part en mer chaque mois ? Comment vit-on avec la peur de perdre l'hôte quand on exerce un métier à risque ? Comment ne pas inquiéter son entourage ? Et je pense tout spécialement aux pompiers qui, hier, au risque de leur vie, ont lutté contre l'incendie de notre belle cathédrale Notre-Dame de Paris. Eh bien, ces métiers à risque, c'est le sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Le 39-21, 50 centimes la minute pour nous appeler, pour partager avec nous votre expérience sur l'antenne d'Europe 1, pour nous écrire hashtag Europe 1 sur Twitter et via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Catherine sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, j'ai 55 ans bientôt et je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors, Catherine, vous êtes l'épouse depuis une trentaine d'années de Georges Salinas, ancien numéro 2 de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention de Paris. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux ?
Alors, nous, c'est une histoire un peu à part. En fait, mes parents avaient le café qui a en face le 36, qui est des Orfèvres à Paris, une brasserie, qui s'appelle Le Soleil d'Or. Oui. Donc, moi, très jeune, ils sont arrivés, j'avais 9 ans. Et puis, en grandissant, comme tous les enfants à l'époque du bistrot, on travaillait un peu dedans. Donc, j'ai vécu avec déjà tous ces hommes de la BRI qui me faisaient rêver quand j'avais 15 ans, 13, 14, 15 ans, à l'époque de Mesrine, des arrestations, etc. En tout cas, ceux de la BRI, on avait toute la PJ. Hein. On avait les stupes, la crime, mais la BRI, c'était à part. Hein.
Ça devait être assez passionnant à écouter, en fait.
Oui, puis à voir, hein, surtout à 14-15 ans, c'était un peu comme dans les films, un peu les blousons, les cheveux longs, c'était pas la police qu'on voyait, qu'on avait l'habitude de voir. Et puis après, je suis tombée amoureux d'un de tous ces beaux policiers. Voilà, à l'époque, il n'était pas commissaire, il est parti à l'école de commissaire, il avait 40 ans, mais il était déjà à la BRI. Donc en fait, j'ai à peu près passé sur toute sa carrière, il a passé 22 ans à la BRI. Oui. Donc, c'était pas pareil à l'époque que maintenant. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de. Les contacts n'étaient pas les mêmes. On n'avait pas la même facilité pour savoir où ils étaient, ce qu'ils faisaient. Moi, la seule facilité, c'est qu'on a toujours habité dans le coin et qu'on avait un appartement qui n'était pas loin du 36, donc je le voyais partir ou revenir. C'est d'ailleurs ce que j'ai bien écrit dans le livre. J'ai fait avec Mme Fauvergue sur la vie des femmes policiers d'élite.
Oui.
Moi, c'est une histoire à part. En tout cas, la vie, était à l'époque au son de l'alphapage.
Justement, comment est-ce que vous viviez et comment vous vivez encore aujourd'hui, puisqu'il a un quotidien mouvementé, votre mari. Comment est-ce que vous le vivez ?
Alors, quand on est jeune, on ne le vit pas pareil, effectivement, qu'en vieillissant. Alors, quand on est jeune, moi, tant que j'avais pas d'enfant, c'était plutôt sympa, c'est plutôt un peu 20 ans, allez, c'est marrant, petites histoires. On ne se rend pas bien compte peut-être de la dangerosité. Puis, dès qu'on devient parent, alors tout bascule. Et c'est là où on se dit, ouïaïaïa. Et donc là, à cette époque-là, on ne va pas dire que tous les jours, on a peur, parce que ça serait mentir. Parce que sinon, il faut aussi changer de mari, parce que ça serait insupportable comme vie.
Oui, puis je suppose que c'est important qu'il vous sente aussi avoir confiance, le porter, ça doit le porter dans ses missions, de vous sentir en place par rapport à la place que vous occupez.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a une place. Puis moi, j'avais une facilité à le refaire redescendre aussi dans la vraie vie. Je ne sais pas si vous avez vu le livre, mais enfin, je le dis vraiment. Même quand il avait des moments où c'était compliqué, je me souviens un moment où il avait eu une arrestation musclée, où ils avaient tiré quand il était à la BRI déjà, et qu'un des deux voyous était décédé. Il ne savait pas encore qui avait tiré sur qui. Moi, quand il est rentré à la maison... je me disais, ça y est, c'est fini cette histoire, ça fait 6 mois qu'il s'en va tous les jours, à pas d'heure, qu'il revient, je ne sais jamais à quelle heure il va revenir, ni rien. Donc quand il m'a dit, c'est fini, au lieu de le prendre dans les bras et de le rassurer, puisqu'il avait vécu cette chose-là, je lui ai dit, bah, c'est super, demain tu pourras venir au spectacle de Mathieu à l'école. Mm-hmm. Parce qu'il y a un moment donné, il faut revenir à la vraie vie, même si si on a peur, en fait, ça nous rassure, je pense aussi.
Et alors, est-ce que certaines tensions qu'il vivait ou qu'il peut vivre encore se reportent sur votre couple par moment ?
Non, à part les événements tragiques des attentats où là, oui, c'était à part, parce que nous en plus on a vécu ça au Soleil d'Or, mon fils avait repris l'affaire à ce moment-là, donc tout était en direct et puis j'avais toutes les infos de la BRB, des stupes de ci, de là qui me disaient ils sont là, oui, ils sont pas là, etc.
Votre mari faisait partie des policiers dépêchés sur place, hein,
il a fait partie des deux, il est rentré avec ses hommes et avec son patron, dans les deux colonnes d'assaut, et au Bataclan et à l'Hypercacher. Ouais. Ça, c'est les moments les plus terribles que j'ai vécu pour mes enfants, notamment pour ma fille qui pleurait en disant « Papa va mourir, papa va mourir », parce qu'elle regardait en direct à la télé comme tout le monde. Mm-hmm. Et ça a été terrible. Pour eux, moi, je sentais même pas ma douleur parce que je voulais tellement protéger mes enfants, même s'ils avaient 21 et 24 ans à l'époque. Et en tout cas, je voulais tout savoir et je voulais être là si des fois... allait se passer, il fallait que je sois là pour les protéger, parce que moi j'avais perdu mon père d'une crise cardiaque à 56 ans, ce qui n'avait rien à voir, mais le choc de oui, il est là, il est plus là, il est là, il est plus là, mm-hmm, il faut être là pour entourer.
Catherine, vous restez en ligne avec nous, nous allons continuer à parler de votre quotidien avec votre mari qui est à la BRI, mais aussi justement des réactions des enfants et peut-être de la peur ou pas qu'ils ont encore aujourd'hui.
Europe 1. Vous exercez un métier à haut risque, c'est le cas d'un de vos proches. Venez partager votre expérience au 3921. Vous nous envoyez vos messages, vos commentaires sur Twitter, hashtag Europe 1, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Affronter des tempêtes quand on est marin-pêcheur, risquer de chuter de plusieurs mètres quand on est couvreur. Vous êtes ouvrier sidérurgiste militaire, vous exercez un métier dangereux, vous nous racontez au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours en ligne avec Catherine qui nous expliquait qu'avoir un mari qui était dans la BRI, eh bien, avoir eu peur finalement quand les enfants sont nés. Catherine, vous dites que le quotidien d'une épouse de policier, c'est aussi le fait d'être très seule. Vous comparez souvent la vie de votre mari à celle d'un marin. Racontez-moi.
Oui, en fait, on est souvent seul parce que j'imagine les marins, bon, on les voit partir tous les matins, etc. Bon, et nous, on les voit partir, mais on sait un peu comme les marins, on ne sait pas trop à l'heure où ils vont revenir. Quelquefois, ça peut durer, ils peuvent durer une journée, deux, trois, quatre. Enfin, c'est, il n'y a pas quand ils partent, on ne sait pas. Mmh. Alors, en plus, on ne sait pas, et puis on ne peut pas toujours téléphoner pour savoir, etc. Et c'est surtout, même dans mon livre, j'avais fait ce rapprochement, c'était incroyable. Je disais que j'étais en admiration devant les marins, en tout cas devant les hommes qui prennent la mer, que ce soit des marins pêcheurs ou des marins tout court.
Enfin, oui, parce qu'il y a même cette même notion d'affronter le danger, ouais, à chaque fois qu'un homme part en mer.
Et cette envie, invariablement, d'y retourner. Moi, j'ai dit tellement de fois à mon mari, tu n'es pas au mauvais endroit, au mauvais moment, pourquoi tu y vas ? Sciemment.
Mmh. Parce que
je sais que ça a l'air bizarre.
Parce que c'est son métier, non ?
Raisonnement. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est aussi parce qu'ils ont besoin. Ils sont engagés pour ça, comme le marin s'est engagé. Et peu importe si c'est une mer calme et c'est le Pacifique ou si c'est l'Atlantique et si c'est déchaîné, eux, c'est pareil. Mmh. Peu importe si c'est pour une intervention facile ou l'enfer comme le Bataclan, mm-hmm, peu importe, on y va comme, mm-hmm, les pompiers, ils y vont. Et c'est une loyauté et un dévouement qui est incroyable.
Qui était incroyable, c'est ce que j'allais vous dire, parce que je sais que l'assaut de l'Hypercacher et l'assaut du Bataclan a été quelque chose de terrible en termes de violence et qu'il y avait bien évidemment beaucoup de dangers. Justement, c'est quelque chose que vous avez toujours compris, ce besoin viscéral qu'à votre mari de rechercher l'adrénaline, parce que c'est ce que vivent ces policiers au quotidien. C'est quelque chose que vous avez dû accepter.
Oui, mais je ne sais pas si c'est un besoin de vivre des choses, comme vous dites. Ils ont un besoin de faire régner l'ordre, de faire tout. Enfin, il n'y a pas que l'envie de ressentir de l'adrénaline, quoi. Ça vient après, c'est sûr. Oui. Ils sont peut-être formatés autrement. certains ne pourraient peut-être pas effectivement supporter ce que eux supportent. Ils ont la capacité d'être très 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 calmes.
Oui.
Même dans l'enfer, ils sont des personnes très calmes, oui. Dans le contrôle, mais plus que du contrôle. Hein. C'est incroyable, et des facilités à rentrer, à se reposer, à dormir même après. Donc c'est vraiment, je pense, presque une race à part.
Vous publiez le 25 avril prochain avec Véronique Fauvergue l'ouvrage « Femmes de policiers d'élite » disponible donc aux éditions Mareuil. Pourquoi avoir eu ce besoin de coucher sur papier votre quotidien ? Parce que vous aviez l'impression que dans ce type de métier, on oubliait les familles, on oubliait les enfants, les épouses ?
Voilà, alors ça a commencé comme ça. Enfin, c'est-à-dire que quand ils m'ont contacté, tout de suite, je me suis dit, parce que dans mon quotidien à moi, les commerçants bistrot à Véronée, vous voyez, déjà quand j'ai épousé un flic pied noir, c'était un peu bizarre. Mm-hmm. Et donc, je ne voyais pas comment ma vie pouvait intéresser quelqu'un. Et tout de suite, j'ai pensé, ça a fait tilt, j'ai pensé aux attentats et à mes enfants. J'ai dit, il faut juste que je fasse ça pour mes enfants. Mmh. Parce que ce qu'ils ont vécu, ce n'est pas du tout normal. Personne n'a le droit, en direct, de voir son père rentrer, même si on a su après que ce n'était pas vraiment du direct, son père rentrer et peut-être se faire tuer en direct à la télé.
Oui.
Ça, ce n'est pas normal. Mmh. Et personne n'a pris la mesure. Et vraiment, on est des privilégiés, hein, parce que personne n'est mort, personne n'a été bassé, ni aux terrasses, ni au Bataclan, ni à les parcs à chair dans notre famille. Mmh. Donc, je dis encore, on est des privilégiés. Mais mes enfants, ils ont vécu quelque chose. Moi, je ne parle pas de moi parce que je pensais tellement à eux que je ne peux même pas vous expliquer si j'avais mal ou pas. Mmh. Que j'ai trop mal pour mes enfants tout le temps. Donc, en fait, je me dis, pour mes enfants, il faut que j'écrive ça. Et pour les enfants de tous les autres policiers. Et puis, de tout, il n'y a pas que le Bataclan et l'hypercachard. Il y a des choses aussi violentes, moins violentes, bien sûr, mais dont la violence est ressentie de la même manière par les familles de policiers, aujourd'hui, demain, à d'autres moments. Et derrière les policiers, il y a des familles.
Derrière les policiers, il y a des familles, des enfants, et il est vrai que personne ne peut se mettre, comme vous le dites, à votre place et à la place de vos enfants le jour où ils ont vu leur père rentrer et dans l'hypercachère et dans le Bataclan. Merci beaucoup Catherine. Je rappelle que vous sortez donc le livre « Femmes de policiers d'élite » disponible aux éditions Mareuil et que c'est pour très très bientôt puisque ça sort le 25 avril. Dans quelques instants, nous serons avec Sandrine Vial-Lenoël. Elle est psychanalyste et intervenante en prévention des risques professionnels.
Europe 1. L'angoisse quand vous partez travailler, l'inquiétude de vos proches, vous connaissez. 3921 pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1. Votre passion est devenue votre profession malgré les risques qu'elle vous fait courir. Vous êtes pompier, policier, militaire. À quoi ressemble votre vie, celle de vos proches? Olivier Delacroix vous écoute au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Sandrine Vial-Lenoël, psychanalyste et spécialiste des enjeux psychiques en rapport avec le travail. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour.
Alors, ces pompiers, ces policiers, ces pêcheurs en mer, ces militaires qui sont dans les forces spéciales, autant de métiers où il faut faire preuve de courage, et pour les proches aussi, comment ne pas constamment s'inquiéter ? Comment arriver à prendre du recul pour ses proches ?
Alors, c'est extrêmement difficile, effectivement, parce que autant le professionnel, lui, il a fait ce choix, il a intégré à un moment ce risque de la dangerosité, oui. De la mort, et il a un contrôle en partie dessus, de par sa formation, son expérience, ses aptitudes, comme le dit Catherine, ses capacités particulières. Autant le conjoint, lui, n'a aucune prise sur ce risque. Il ne peut être que témoin, absent, solitaire de ce risque. Donc effectivement, c'est extrêmement difficile. Alors comment faire ? On l'entend bien dans le témoignage de Catherine. Elle a trouvé quelques solutions, c'est-à-dire s'appuyer sur la vie quotidienne, écrire un livre pour parler de cette anxiété est une solution pour vivre cette peur en permanence.
Et est-ce que vous ne pensez pas que ces personnes qui exercent des métiers à risque ont aussi un rôle à jouer auprès de leur famille pour justement relativiser les choses et leur parler régulièrement de leur travail, des missions qu'ils vont exécuter, afin de montrer, de les rassurer sur le côté « je suis en place, je ferai attention ». Est-ce que ces personnes ont un rôle principal dans le fait de relativiser et de ne pas avoir peur?
C'est essentiel, c'est-à-dire que plus le professionnel qui est en contact avec ce risque de mort, il faut le dire aussi clairement que ça, plus il va parler de sa capacité à agir, des prises de décision qu'il prend, plus effectivement il va donner l'impression de maîtriser son métier et rassurer effectivement sa famille et son conjoint. C'est très important par exemple auprès des enfants. Oui.
Est-ce que ça n'est pas plus facile pourtant d'en parler aux collègues que de dire ou de ne pas dire les choses à ses proches quand on est, comme vous l'évoquiez, pompier, gendarme ou comme le mari de Catherine à la mairie, et notamment à son conjoint? Est-ce qu'il faut aussi le protéger de certaines choses et ne pas tout dire?
Alors oui, effectivement, de toutes les façons, il ne faut pas tout dire et on ne parle pas de la même façon à son collègue ou à son conjoint. C'est-à-dire que peut-être à ses collègues, on parlera peut-être moins de peur, mais plus d'un aspect plus technique de ce qui s'est passé, de la prise de décision, des gestes de métier pour d'autres métiers que le métier de policier. Et puis, auprès du conjoint, on aura peut-être un discours un peu plus affectif, mais tout en mettant en avant la capacité à faire, à agir, à prendre des décisions. Mmh. Oui, mais je pense qu'on ne parlera pas de la même chose.
Dans ces métiers à risque, les familles de ceux qui les exercent peuvent parfois avoir l'impression d'un sacrifice. Comment ne pas le vivre de cette façon?
Oui, alors effectivement, c'est-à-dire qu'on entend bien que l'intérêt général peut primer sur l'intérêt privé. C'est-à-dire que c'est l'amour qui est en jeu, c'est-à-dire aimer plus son métier que aimer son conjoint, sa famille ou ses enfants. En fait, ce n'est pas du même ordre, c'est-à-dire que ça ne devrait pas s'opposer, ça devrait être ensemble et en même temps. On peut tout à fait avoir un métier à risque, oui, qui met en jeu la vie, et pour autant être un père attentif, un conjoint attentif, être présent et avoir une vie, je dirais, tout à fait normale, comme quelqu'un qui partirait au bureau le matin. Mais chaque couple, chaque famille doit trouver cette combinatoire très particulière et accepter que ce n'est pas l'un au détriment de l'autre, mais c'est en même temps. C'est en même temps, ça ne s'oppose pas.
Mmh. Quel conseil vous donneriez aux personnes qui partagent la vie de ces policiers, de ces pompiers, de ces marins aussi? Parce que quand la mer se déchaîne, il est certain qu'on peut avoir peur. C'est d'être, comme vous le disiez là, c'est de vivre une vie qui soit des plus normales lorsqu'on est ensemble?
Oui, c'est ça. C'est une vie normale quand on est ensemble. Et c'est aussi une vie séparée avec l'absence de l'autre. Mmh. C'est-à-dire le conjoint qui doit continuer ses activités, emmener les enfants à l'école, travailler éventuellement si elle travaille. Mais en tout cas, ça doit être ensemble et séparé en même temps. Et puis, à un moment donné, il faut faire confiance.
Oui.
Être dans la peur en permanence n'est pas la solution. Il faut vraiment faire confiance.
Mmh. On l'entendait avec Catherine d'ailleurs dans la première partie de cette émission. La confiance qu'on accorde à l'autre aussi est très importante lorsqu'il part. Peut-être que il part plus tranquille et sans angoisse pour les siens. Et ça renforce sans doute toute personne qui part et qui sait qu'au bout de la mission, il y a un certain danger. Sandrine Vianney-Lenoël, je rappelle que vous êtes psychanalyste et spécialiste des enjeux psychiques en rapport avec le travail. Vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous accueillerons Scarlett. Elle est marin-pêcheur depuis 36 ans, une passion qu'elle partageait avec son père et aujourd'hui avec ses enfants.
Et le témoignage de Nadine, qui a 56 ans, qui nous a appelé au 39-21. Mon fils est militaire, force spéciale, il m'a amené avec lui dans son métier. Un jour, on a appris par un coup de fil qu'il avait été gravement blessé lors d'une mission. Il est toujours handicapé par ses blessures aujourd'hui. Je ne souhaite à aucun parent de vivre cela.
Europe 1.
Vous risquez de vous faire agresser, de vous blesser. Vous avez choisi d'exercer un métier malgré les risques. Venez nous expliquer et nous raconter votre quotidien. A tout de suite avec Olivier Delacroix au 39-21. Vous exercez un métier à haut risque. Vous devez faire preuve de courage en essayant de ne pas inquiéter vos proches. Vous nous racontez, Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Scarlett. Bonjour Scarlett, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour les auditeurs.
Bonjour. Quel âge avez-vous, Scarlett, et d'où nous appelez-vous?
Alors, je suis au Guilvinec.
Au Guilvinec.
Je suis née en 55, donc j'ai 64 ans.
Vous avez 64 ans. Et je connais le Guilvinec. Je suis allé là-bas et c'est vrai. Alors, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus pêcheur que le Guilvinec. Vous y allez.
Où est-ce que c'est?
Alors, c'est en Bretagne, mais vraiment à la pointe après Quimper. C'est ça, hein, je ne me trompe pas, hein, Scarlett.
Voilà,
la pointe Finistère.
Voilà. Et quand vous allez en plein hiver là-bas, vous voyez, vous vous retrouvez avec des pêcheurs. C'est vraiment, on vit pêche, les femmes de pêcheurs, enfin, il y a quelque chose qui se dégage de l'esprit là-bas, parce que partir en mer, c'est votre métier depuis 36 ans, Scarlett. Outre le fait que ce soit un métier considéré comme étant très masculin, c'est aussi un métier dangereux. En quoi consiste-t-il exactement ?
Ben, il faut qu'on aille pêcher du poisson si on veut gagner notre vie, donc on est obligé de partir en mer, de poser les filets,
oui.
Parce que moi je suis filayeur, hein, donc je pose mes filets le jour, par exemple aujourd'hui, pour les relever demain matin, pour pêcher de la sole. C'est mon métier, c'est la sole.
Et
donc je travaille sur les poissons plats.
Votre métier, c'est la sole, et tous les jours, en fait, où est-ce qu'il y a des jours où on décide de ne pas prendre la mer?
Ben, quand le temps n'est pas, que la météo n'est pas clémente, on va dire, ben, ces jours-là, on ne va pas aller en mer.
Mmh. Hein,
on va seulement attendre. Et puis, en général, on va boire le café avec les collègues, parce que si moi, je ne suis pas en mer, les autres non plus.
Mmh.
Donc, on se retrouve tous au café, à boire autour d'une table, à boire un café et puis à discuter de tout et de rien. À refaire le monde, ma foi, ça fait partie de la vie.
Oui.
Et après, ben, on retourne à la maison, ou bien si jamais le temps s'éclaircit et qu'on voit une fenêtre météo, qu'on appelle ça, on va en mettre.
Mmh. Votre père était géomonier, un récoltant d'algues. Vous avez des souvenirs, lorsque vous étiez petite, d'avoir été inquiète lorsqu'il partait en mer?
Ben, si vous voulez, le départ en mer, surtout avant, quand on n'avait pas tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, on avait toujours l'inquiétude parce que l'accident pouvait toujours arriver. Même aujourd'hui, ça arrive encore. On vient d'avoir des drames dernièrement là, sur les ports de Guilvinec et de Saint-Guénolé. Donc, si vous voulez, ça fait partie de notre quotidien. On a toujours eu cette inquiétude en nous parce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie des marins. Vous savez que c'est quand même le métier le plus pénible au monde et le plus dangereux au monde aujourd'hui.
Oui. Parce que c'est très physique et qu'on affronte un élément qui est, en tout cas moi, qui m'impressionne beaucoup. Et je trouve très courageux, de bien évidemment, de partir en mer. Mais c'est un élément... Ça me fait peur, moi, la mer, pour tout vous dire. Donc, même si... je préfère rester au bord de la plage, faire du surf, plutôt que partir en mer. Vous avez dû concilier votre métier de marin-pêcheur avec votre quotidien de mer. Est-ce que le fait de devenir maman a changé votre implication dans votre métier? Est-ce que vous êtes devenue plus prudente? Est-ce que ça a changé quelque chose?
Si vous voulez, même si on dit qu'on va changer quelque chose, on ne change rien. Parce que la mer, c'est, bon, pour moi, c'est une passion déjà, mais c'est quelque chose où on le fait ou on ne le fait pas.
Oui.
On
ne
peut pas faire quelque chose à moitié.
Mmh.
À partir de ce moment-là, c'est une application et quotidienne. Et à fond, à 100%.
Mmh.
Alors, à côté, il y avait la vie de maman. La seule chose que j'ai fait, c'est qu'au lieu de partir à la journée comme avant, je me suis mise, ou bien partir pour des longs mois, je suis restée à la maison et j'ai adapté mon travail à ma vie de mère de famille
en même
temps pour pouvoir avoir de la présence avec mes enfants.
Mmh. Et justement, vos enfants, comme l'évoquait Catherine tout à l'heure, est-ce que vous en parliez avec eux de ce danger, ou est-ce que c'est quelque chose qui est entendu dès que voilà, on grandit au Guilvinec, on sait hein, qu'il y a beaucoup de marins pêcheurs, on est conscient très jeune du danger de ce métier.
On est conscient, mais en même temps, je vais vous dire autre chose. Aujourd'hui, tous mes enfants sont marins pêcheurs et patrons pêcheurs.
Et oui.
Donc, ils sont dans le monde entier à naviguer. J'en ai fait tous des marins, donc ça parle de même, quoi.
Et alors, vous inquiétez pour eux lorsqu'ils partent en mer telle mère, tel fils et fille, ce ne sont que des garçons ou vous avez aussi une fille qui part en mer?
J'avais une fille qui partait en mer, mais maintenant, elle a arrêté, elle a un autre métier pour oui. d'autres raisons. Mmh. Et mes garçons sont toujours en mer. Bon, j'en ai un qui est sur les mers du globe et suivant les zones où il va, on n'est pas... C'est pas la mer qui nous fait peur, c'est les autres dangers que l'on peut rencontrer sur ces mers-là aujourd'hui.
C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire du
ben
style.
C'est les pirates de la mer, parce que dans ouais. les zones où il va aller, il va avoir affaire à ces gens-là, quoi.
Mm-hmm. Ouais, hein? Donc
il risque de rencontrer ces gens-là sur sa route, quoi. Mm-hmm. Et ça ne fait plus peur que la mer elle-même, mm-hmm. parce que la mer, vous savez, quand on est marin, c'est quelque chose avec lequel on compose, avec lequel on vit.
Oui.
On apprivoise la mer, mais c'est plutôt elle qui nous apprivoise, quoi. On n'a pas, c'est pas nous qui allons dominer, c'est toujours mm-hmm. la mer qui va nous dominer. Donc, il faut qu'on fasse avec elle et qu'on compose avec elle. C'est pas dans l'autre sens.
Oui, c'est cette mère qui vous domine et qui vous parle un petit peu, hein, puisque vous savez, lorsque vous partez en mer, le danger, c'est elle qui vous le communique, en fait.
Exactement. On sent les choses. Donc, quand on va quelque part, quand on va sur l'eau, c'est complètement différent d'un déplacement sur la terre. On n'a pas du tout la même sensation. Mmh. On ne peut pas comparer les choses.
Merci beaucoup, Scarlett, pour votre témoignage. Et puis, bonjour au Guilvinec, magnifique région où vous avez la chance de vivre, chère Scarlett. Nous serons dans quelques instants avec Marion. Elle partage la vie d'un gendarme mobile. Il part régulièrement en mission en France ou à l'étranger.
Europe 1. Comme Scarlett au 39-21, par passion, vous avez choisi d'exercer un métier à risque. Venez nous raconter votre histoire au 39-21. C'est le cas d'un de vos proches. Vous pouvez aussi réagir et nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Cascadeur, pompier, pilote, à quoi ressemble votre quotidien quand chaque fois que vous allez travailler, vous risquez de vous blesser, vous risquez votre vie? Comment réagissent vos proches? Vous échangez avec nous au 39-21 avec Olivier Delacroix.
Et nous accueillons maintenant Marion sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Marion.
Bonjour. Bonjour à tout le monde.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Marion?
J'ai 30 ans et j'appelle dans le département de l'Aisne, en
D'accord.
Picardie.
Alors, vous, Marion, vous dites qu'être la femme d'un gendarme, c'est un véritable honneur. Tout d'abord, vous êtes fière d'être mariée à quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour les autres.
Oui, contrairement à ce qu'on peut croire en ce jour, on va dire, de politique, où on vit des manifestations un peu olé olé en ce moment. Oui. Oui, moi, je suis honorée d'être avec un gendarme. Alors, je ne suis pas encore mariée. J'attends que monsieur se décide.
Ah bon?
Moi aussi, remarque.
Vous attendez qu'il vous demande?
Non.
Bah, alors, demandez.
J'attends pas, en fait.
Bah, demandez.
J'attends. Non, ça viendra un jour. non. Mais oui, je suis honorée parce que, pour moi, ce sont des valeurs. C'est un dévouement de sa personne pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément d'ordre familial.
Oui.
On protège également sa famille, mais on protège aussi les civils français.
Oui.
Et les Français aussi qui sont dans d'autres pays, en Dom-Tom ou en Outre-mer, et même dans des pays hors français.
Oui, puisqu'en 2017, votre compagnon est parti en mission en Irak. Hein. Vous étiez alors enceinte. Je sais que toutes ces missions sont très dangereuses, puisqu'il y a quelques jours, j'étais au Mans et je suis tombé en fait sur la maman du jeune médecin qui a péri sur une mine il y a une dizaine de jours au Mali. À chaque fois que ces gendarmes, que ces militaires partent à l'étranger pour le maintien hein, de la paix, ils sont en danger. Comment est-ce que vous avez vécu ça enceinte lorsque votre homme était en Irak?
Déjà, je me suis rapprochée le plus possible de ma famille pour ne pas me sentir isolée, parce que ma famille est à 1000 km de là où nous habitons. Nous sommes originaires du sud-ouest de la France.
Oui.
Déjà, il faut être bien entouré et après, je pense qu'il faut avoir un moral d'acier. J'étais enceinte de mon deuxième enfant, donc je savais qu'il fallait quand même garder un certain sang-froid, un certain calme, du fait que j'avais déjà un enfant de 1 an et qu'il fallait que j'assume aussi bien mon rôle de maman et le rôle de papa qui était absent. Mmh. Mais bien sûr, heureusement, on avait quand même gardé contact avec papa tous les jours, et ça grâce à Internet, grâce aux applications WhatsApp et tout ça. Mmh. Donc, il était quand même présent visuellement.
Mmh. L'un de vos deux enfants a aujourd'hui 4 ans, hein, si mes comptes sont bons.
2 ans et demi et 1 an et demi.
Ah, d'accord, vous voyez, je compte mal. En fait, vous leur expliquez déjà, vous leur parlez de l'absence de papa, vous leur expliquez. Est-ce que...
Oui, parce que j'ai une enfant de 2 ans et demi qui commence à comprendre l'absence, ce qu'est l'absence. Et donc, du coup, quand papa part en mission, je lui dis, papa, il revient dans tant de dodo. Oui. Donc, on apprend à compter en même temps, c'est ludique. Mmh. Mais c'est pareil, même à l'école, puisqu'elle est à l'école, elle est en toute petite section maternelle, et on a commencé à intégrer, à instaurer des tableaux avec les jours de la semaine et des mois, en mettant la photo de papa, en disant, papa, il reviendra tel jour. Mmh. Donc, et encore, si on sait que la date ne bouge pas au-delà, parce que c'est arrivé qu'il devait rentrer 3 jours après, et qu'au final, il soit rentré 15 jours après.
Mmh.
C'est dur à gérer.
Et plus ils grandiront, plus ils seront conscients que leur père fait un métier particulier à risque, en tout cas. Est-ce qu'il vous raconte, votre compagnon, ce qu'il vit? Est-ce que vous aimeriez en savoir plus? Ou est-ce qu'à votre avis, il vous protège et évite de tout vous dire lorsqu'il part en mission?
Alors, il ne me dit rien. C'est moi qui lui pose des questions.
Oui.
Et c'est un homme très réservé, avec un sang-froid auquel je n'ai jamais vu une personne aussi réservée, en fait. Donc, je suis obligée de le questionner pour avoir des informations. Et après, je sais bien qu'il a un droit de réserve, même envers sa femme. Mais je sais que s'il en a besoin d'en parler, il m'en parlera. Mmh. Donc, je ne le force pas. Même au contraire, s'il veut partir dans un endroit à risque, je serai la première à le solliciter, parce que je peux comprendre sa profession.
Oui.
Il aime sa profession, c'est un dévouement, un dévouement personnel.
Et c'est très important qu'il sente que vous êtes fière de lui, vous le portez.
Moi, je suis fière de lui, et puis je le porte avec moi, même si je lui dis à chaque fois, à chaque déplacement, sois prudent, fais attention. Mmh. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on sera toujours là. On l'épaule quand même.
Mmh. Je me tourne vers vous, Sandrine Vianney, le Noël. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et spécialiste des enjeux psychiques en rapport avec le travail. Être fière d'être aux côtés de quelqu'un qui peut donner sa vie pour son pays ou pour autrui, ça permet d'envisager mieux ou d'envisager le risque autrement?
Oui, parce que ça veut dire que le conjoint a intégré la notion inversée de risque, c'est-à-dire qu'il a intégré la position de sauveur.
Mmh. Il fait un peu partie de la mission, c'est quelque part ça?
Qui fait partie? Oui, voilà, c'est exactement ça, qui fait aussi partie de la mission, c'est-à-dire que cette fierté, c'est une façon inversée d'intégrer ce risque. Il est au service de l'autre, dans un intérêt qui dépasse le couple et qui dépasse la famille. Mmh. Et cette fierté, dite et parlée auprès du conjoint qui exerce ce métier, est un énorme support, parce que ça vient le conforter dans son choix de métier et les raisons pour lesquelles il prend ses risques. Donc c'est très étayant. Mmh. Bien sûr. Mmh. Oui.
Sandrine Vial, le Noël, vous restez en ligne avec nous. Marion, merci beaucoup pour votre appel et pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci de rappeler aussi que tous ces gendarmes qui, ici en France ou qui partent à l'étranger, ils sont là pour que notre société reste en place et qu'ils sont des rouages essentiels pour que notre société tourne et qu'elle aille bien ou mieux. Donc merci beaucoup Marion. Bonjour à monsieur. Dans quelques instants, nous accueillerons deux personnes sur notre antenne. D'abord Ghislain, il est pompier volontaire, mais aussi Cathy, dont le père était lui aussi pompier volontaire.
Europe 1. Vous exercez un métier à haut risque. Quel est votre quotidien? Quel est celui de vos proches? Comment vit-on quand on a peur pour l'autre? Vous composez le 39-21. Vous exercez un métier à risque. Quel est votre quotidien? Vous retrouvez Olivier Delacroix.
Et pour conclure cette émission, nous accueillons tout d'abord Ghislain sur notre antenne. Bonjour Ghislain.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Ghislain?
Donc, j'appelle de Verdun. oui. Dans la Meuse, donc j'ai 36 ans.
D'accord. Et vous êtes à la fois chef de chantier et pompier volontaire.
Voilà, tout à fait.
Vous vous rendez donc disponible les nuits et les week-ends.
C'est ça.
C'est quoi, pompier volontaire ? C'est une passion ou c'est une vocation ?
C'est les deux. C'est une vocation qu'on ne peut pas exercer sans passion. Mmh. Voilà.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de pompier volontaire ?
Comme tout à chacun, l'adrénaline,
oui.
Bien sûr, la phrase un peu typique, les camions rouges, mmh. les sirènes hurlantes, secourir et venir en aide à la population, mmh. se sentir utile.
Mmh. On connaît les risques d'être pompier, mais oui. vous parlez aussi des agressions que vous vivez au quotidien. Et qui sont de plus en plus fréquentes et qui sont de plus en plus choquantes. Hein, parce que comment s'en prendre aux pompiers lorsqu'ils interviennent, par exemple, n'importe où, et prendre des poubelles en feu, des cailloux, ça vous arrive de plus en plus. Comment vous vivez ça ? Parce que je me suis souvent posé la question.
Alors, il est vrai que malgré on va dire, le fait qu'on soit en campagne, dans notre petite Meuse, il est vrai que depuis maintenant plusieurs années, c'est un problème qui devient de plus en plus fréquent, que ce soit agression verbale ou effectivement qu'on peut voir aux infos le caillassage des véhicules, ça arrive.
Et je me suis toujours demandé pourquoi, alors à part la bêtise bien évidemment qui accompagne ce type mmh. d'acte, Mais comment ces personnes justifient-ils de s'en prendre aux pompiers ? Parce que c'est quelque chose qui m'échappe. Ils vous confondent avec les gendarmes, c'est ça ?
Voilà, c'est tout à fait ça, Olivier. Je pense que c'est propre à l'uniforme.
Ouais.
Je pense que, après, c'est valable hors France également, je pense. Mmh. Tout ce qui est attrait à l'uniforme, ça représente l'État. Et de toute façon, on représente l'État.
Oui.
Et de quelconque manière que ce soit, un uniforme peut être perçu comme l'État, donc peut-être mauvais pour certaines classes de la population.
Mmh. Il est bon ici de rappeler que l'uniforme de pompier est aussi celui qui, le jour où il y a un infarctus, le jour où il y a un malaise, et que ça soit dans n'importe quel quartier, que ça soit un quartier riche ou un quartier pauvre, eh bien, pour les pompiers, il n'y a pas de différenciation qui est faite pour les pompiers, et que les pompiers viennent sauver des vies, viennent rassurer des familles. Et il est bon de le rappeler ici, encore une fois, parce que il est difficile de comprendre pourquoi on s'en prend aux pompiers aujourd'hui. Je crois que vous avez parlé de votre métier avec passion dans votre entourage, puisque votre fille de 13 ans, hein, elle se destine à être sapeur-pompier, elle aussi.
Voilà, depuis cette année.
Ouais.
Donc on a la chance au centre de secours de Dieu-sur-Meude d'avoir monté une école de JSP voilà maintenant 2 ans. Et oui, sans la forcer d'ailleurs, j'ai réussi à transcrire un peu ça à ma fille. Et elle ne voit que par ça maintenant.
Alors, écoutez, on va justement parler avec une femme qui, elle aussi, s'est destinée aussi à être pompier, puisque son père était lui aussi pompier. Bonjour, Cathy.
Oui, bonjour, Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Cathy ?
J'ai 53 ans, j'habite à Saint-Georges-de-Rouelay dans la Manche, mais je ne suis pas pompier.
Je sais que vous êtes infirmière, vous êtes pompier volontaire.
Je suis la fille d'un pompier et la sœur de pompier aussi.
D'accord. Et vous n'avez jamais voulu être pompier volontaire alors ?
Ça ne se faisait pas quand j'ai commencé mes études, il n'y avait pas de filles chez les pompiers.
D'accord, il n'y avait pas de filles chez les pompiers.
Non.
Depuis quand il y a des filles chez les pompiers d'ailleurs ?
Ça ne fait pas 30 ans, hein. Ça fait peut-être 20 ans, mais... J'ai pas cherché à rentrer chez les pompiers ensuite, quoi. Mmh. Je fais déjà mon métier, ça suffit.
Oui, et puis c'est aussi devenu un métier à risque, hein, parfois, oui. Votre métier d'infirmière. Oui. Votre père, donc, lui aussi était pompier. Est-ce que vous gardez un souvenir du danger et est-ce que vous étiez inquiète lorsqu'il partait en mission ?
Bon, il était chef de centre d'une caserne, mais c'est vrai que quand il allait en intervention... Il partait, mais on pensait pas à des accidents ou tout ça. C'était pour sauver quelqu'un, c'était pour aller secourir les gens.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai qu'il est revenu parfois en disant j'ai manqué de mourir, parce qu'une fois il a manqué de se faire empaler. Heureusement qu'il était attaché. Il y avait un feu et il était attaché pour avancer, pour éteindre ce fameux feu.
Oui.
Et il y avait une fosse avec des pylônes métalliques au fond.
Oui.
Et heureusement qu'il était attaché, parce que je pense qu'il aurait été empalé, il ne serait pas encore de ce monde actuellement.
Oui, et je rappelle qu'hier, encore des pompiers ont risqué leur vie pour venir à bout de cet incendie qui a ravagé une partie de Notre-Dame, et que c'était largement évoqué souvent durant la soirée, que les pompiers vraiment risquaient leur vie en permanence. Vous êtes devenue infirmière. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est lié à l'éducation que vous a donné votre père, et justement ce sens d'aider l'autre, de s'occuper de l'autre ?
Non, moi j'ai eu ce virus à l'âge de 4 ans et mon père était pompier quand j'avais 8 ans.
Bon.
Donc bon, alors, j'ai eu le virus avant lui. Quoi.
On dira qu'il y a une vocation dans la famille, en tout cas, de s'occuper et de faire attention aux autres. Merci en tout cas pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Cathy, merci aussi à Ghislain. Merci à Catherine, à Scarlett, à Marion et à Sandrine Vielle-Lenoël pour ces éclairages. Vivre aux côtés de quelqu'un qui exerce un métier dangereux, cela implique de prendre du recul, de pouvoir exprimer ses craintes aussi. Il faut apprendre à vivre avec et à ne pas le vivre comme une punition, comme une source d'angoisse au quotidien. On a senti beaucoup de fierté chez ceux qui exercent ces métiers, mais aussi, durant cette émission, beaucoup de fierté chez leurs proches. Le sens du devoir aussi, le risque, font partie de ces métiers et qui ne doivent pas devenir une obsession, mais surtout rester un métier où l'on garde le contrôle, parce qu'il ne faut pas oublier que ces femmes et ces hommes qui ont ces métiers à risque sont toujours, souvent dans le contrôle. Vous pouvez continuer à en discuter sur les réseaux sociaux.
Le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous donnez une seconde vie aux émissions en continuant de discuter entre vous, en continuant de témoigner. Et sachez-le, on continue de vous lire, nous, de votre côté, avec grand plaisir. Et puis Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des personnes qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants. Un choix parfois jugé, mais de plus en plus assumé. Alors, si vous ne voulez pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques, si vous n'avez jamais voulu avoir d'enfants et que vous subissez une pression sociale, si vous avez des amis qui ont fait ce choix et que vous jugez ce choix eh bien, à votre manière, n'hésitez pas à venir partager votre histoire, votre opinion au 3921 et nous parler, puisque cela nous intéresse. Ma chère Ombline, j'ai été ravi de passer cette heure avec vous.
Moi aussi, à demain.
Comme avec vous, mes chers amis.